Bonjour, merci de m'accueillir. Je remercie là, bien évidemment le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé et la DIAL de m'avoir permis de venir vous présenter les résultats d'un programme qui est complexe, dont on a compris bien évidemment qu'il reposait et qui est coordonné par la DIAL, qu'il reposait sur en fait de l'accès au logement et de l'accompagnement dans le logement en vue d'un rétablissement. Mais ce programme avait une ambition au-delà, qui était aussi d'en réaliser l'évaluation au travers du recours à une équipe de recherche. Et c'est à ce titre-là que l'on a été sollicité. Donc moi je m'appelle Pascal Hoquier, je suis responsable d'une équipe de recherche qui n'a pas fondamentalement un intérêt capital. Alors je vais vous présenter des résultats qui sont volontairement parfois contradictoires, parfois provocateurs, mais qui rejoignent la conclusion quand même générale qui a pu être donnée, enfin la conclusion là. Les orientations générales qu'on peut être données en introduction. Donc le projet est un projet qui. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres. En fait, les chiffres, on s'en fout. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est simplement pour témoigner qu'ils existent en vrai, voilà. Mais il ne faut pas les lire. Et ils seront toujours à disposition de toute façon. Ce qui est important, c'est ce qui ressort finalement de ces chiffres. Donc le projet, en fait, ce que je n'ai pas remis d'ailleurs en introduction, repose finalement sur une expérimentation, ce que vous avez compris, dans lequel finalement il y a une partie des patients vont pouvoir accéder à du logement directement par captation et y être accompagnés comparativement à des gens qui continuent dans un circuit qui est tout à fait usuel. Donc la mise en place en elle-même du projet, dans sa nature, était originale, complexe en tout cas assez singulière. Il y avait une nécessité finalement d'apporter de l'information dans deux volets, un volet qu'on va qualifier de quantitatif et un volet qu'on va qualifier de qualitatif, bien que cette espèce d'opposition n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Bon, c'est très franco-français, c'est pas que franco-français d'ailleurs, c'est une espèce de vision un peu manichéenne. Donc je vais vous présenter des résultats qui sont plutôt quantitatifs, ce qui en général rassure un décideur, mais il y a des résultats qualitatifs qui vont être présentés par Pauline, qui sont des résultats qui sont aussi très, très importants. Alors, en pratique, on a dans l'étude effectivement inclus 350 sujets dans les deux groupes en faisant simple, sujets qui ont été suivis pendant 24 mois à partir de 2011. Et c'est une étude qui s'est terminée il y a maintenant 18 mois en faisant simple. Et vont au bout de l'étude, en fait, 197 sujets d'un côté, 255 sujets de l'autre. Bien évidemment, on comprend rapidement qu'effectivement, on a plus de on a moins de perdus de vue dans le bras des gens qui sont logés, qui accèdent au logement, qu'il y en a un petit peu plus de l'autre côté. Et ce qui va être une éternelle question, c'est de dire, mais finalement, ces gens qui sont perdus de vue de l'autre côté, est-ce qu'il ne pose pas de problème? Est-ce que les résultats que l'on a chez les gens qui sont logés, comparativement aux gens qui ne le sont pas, les gens qui ne le sont pas, c'est les meilleurs et on n'a pas les résultats de l'autre côté, donc ça gâche tout. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement à la question, en sachant qu'on a documenté des éléments qui sont importants au fil du temps de façon régulière, à la fois sur des données qui sont des données sanitaires, d'accès au logement, de rétablissement, de relations avec le système de soins, de relations avec la justice, etc., etc. La première chose qui est importante dans la première chose qui est importante, c'est effectivement de remarquer effectivement que dans les deux bras, effectivement, il y a un déséquilibre probablement dans l'organisation du suivi et dans les perdus de vue entre ces deux bras. Et le premier élément qui convient de rappeler quand même, c'est que en pratique, tout le monde ne va pas au bout, tout simplement parce qu'il y a des décédés, que c'est une population qui paye un vrai tribut. Et c'est une population qui est très touchée, qui est particulièrement touchée par la maladie et par des décès qui sont précoces. Et c'est des chiffres qui font toujours très peur. La deuxième chose, alors on voit, alors c'est une espèce de question qui est récurrente en disant oui, alors mais les chiffres des décédés dans le 1 chez soi sont plus importants que chez les gens qui ne sont pas dans le 1 chez soi. Ça se trouve, c'est le programme programme qui est délétère, etc., etc. On a un peu du mal à le comprendre quand même, mais bon, pourquoi pas. Il suffit juste d'essayer de rapprocher d'autres résultats à côté sur on a tout fait pour retrouver de l'information. Ceci mis à part, c'est pas toujours d'une grande simplicité. Ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a aussi beaucoup de gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, dont le statut vital est incertain, ce qui est aussi une réalité, ce qui est la réalité du terrain, de la vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les gens deviennent, et que il y a de ce fait-là beaucoup de gens quand même de l'autre côté sur lequel le statut vital est très très incertain, et que quand on cumule finalement ces informations, finalement il n'y a pas de grosses différences entre les deux bras très probablement. Alors le tableau est très compliqué, on s'en fout du tableau. Le tableau, ce qu'il dit simplement, c'est que entre les gens qu'on a pu suivre jusqu'à la fin, comparativement à des gens qui ont été décédés et comparativement à des gens dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent, formellement, au moment où ils rentrent dans l'étude, il n'y a pas de différence majeure entre ces trois populations. Et que donc, ce que l'on va observer à la fin sur la population que l'on a pu capter et qu'on a pu suivre dans le temps, ces résultats sont très probablement extrapolables aux populations qui, manifestement, ont disparu. Alors, des résultats, il y en a plein, et puis des résultats, il y en a beaucoup qui ont été demandés, de façon, effectivement, on a pu rappeler la façon dont on a pu fonctionner, enfin, je conclurai là-dessus, c'est toujours très compliqué, et donc, des résultats, tout le monde est avide de résultats, au fur et à mesure, dans de multiples champs, quand ils sont disponibles, etc., etc. Alors, je vais vous en donner, puis le premier résultat, et qui est un résultat, pour le coup, qui n'est pas du tout provocateur, parce que la première question qui s'est posée au tout début à la mise en place du projet, et pour en avoir défendu de temps en temps le financement auprès d'organismes de recherche pour lesquels ça paraissait tout à fait saugrenu, la première réponse qui a été faite par des financeurs, plutôt du monde de la recherche, alors je vais être, on va simplifier, c'est de dire, mais de toute façon, c'est complètement con votre truc, je m'excuse, hein, mais de toute façon, vous allez les mettre dans des logements, ils vont tout détruire, et puis vous allez voir, ils vont partir. C'est moi ce que j'ai entendu souvent quand même. Il faut juste rappeler qu'en pratique, effectivement, on constitue bien deux bras. Le vert, c'est de l'accès au logement. C'est de l'accès au logement dans le cadre d'un vrai logement, un chez-soi. Alors, premièrement, ça traduit simplement qu'au fil du temps, premièrement, il y a quand même des gens qui, dans l'offre habituelle, finissent par accéder à un logement. Ça, c'est quand même une réalité, ce qui est plutôt heureux. Que la part de ces gens qui accèdent, elle est faible. Et c'est aussi de la stabilité dans le logement. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le bras un chez-soi, les gens, ils accèdent au logement, mais ils y restent. Alors pour vous, c'est naturel, ça vous semble logique, mais pour beaucoup de gens que j'ai croisés, c'est pas du tout intuitif. De penser qu'ils puissent y rester n'est pas intuitif. Enfin, je m'adresse à la partie plus psychiatrique, je l'ai entendu, voilà. De toute façon, ils vont tout casser, ça va pas être stable, ils vont partir, et ça marchera jamais. Donc ça, c'est certainement, moi, un des résultats qui m'a le plus intéressé. Alors après, effectivement, tout le monde a demandé des résultats. Mais en pratique, donc, c'est un programme qui est orienté sur le rétablissement. Est-ce que les gens, ils se rétablissent, oui ou non? Alors, on peut lire les résultats de deux façons. La première chose qu'on peut constater, finalement, si on est très honnête, quand on regarde au bout de 24 mois et qu'on compare en fait les deux bras, dans les faits, les deux bras, dans ces deux bras, il n'y a pas fondamentalement de différence dans le rétablissement, ce qui rassure aussi sur des dispositifs usuels, sur l'efficacité des dispositifs quand ils existent. Par contre, on peut dire, alors c'est tout pourri cette affaire, il faut s'arrêter là. L'autre côté positif, mais le côté positif, c'est quand même de remarquer que, en pratique, ces populations, elles vont vers le rétablissement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un dispositif dans lequel on a comparé des gens. On a comparé des gens et on s'est mis dans une situation qui ne correspond pas tout à fait à la réalité et qui a une attention particulière chez les gens qui, dans les faits, n'accèdent pas directement au logement par le système social, par le système de soins, et qu'il est absolument certain qu'il y a une attention plus importante, et que donc il y a un effort qui a été fait, et que le différentiel n'existe pas de façon très nette à la fin. Pourquoi pas? Les effectifs sont petits, mais ce qui est une certitude, c'est que ces gens vont vers le rétablissement, et c'est ça qui est positif. Alors, on peut, donc, premier truc, la deuxième chose, on peut présenter d'autres résultats. Alors, les résultats, un des résultats qui va sortir de façon récurrente, c'est que finalement, les résultats sont probablement plus nets dans certaines pathologies que d'autres, en sachant qu'il y a certainement moins de populations qui étaient atteintes de troubles bipolaires qui étaient incluses et qu'il est probablement plus difficile de montrer le résultat. Voilà. Mais fondamentalement, effectivement, probablement, les résultats sont peut-être plus nets chez les schizophrènes. De la même façon, on peut se dire, mais finalement, est-ce que la qualité de vie, ces gens-là, s'améliore? C'est la même conclusion préalablement. Le résultat, ce qu'il montre fondamentalement, c'est que si le différentiel, il n'est pas net au bout de 24 mois entre les deux mois, premièrement, en tout cas, l'amélioration de la qualité de vie, elle existe très nettement dans le bras qui bénéficie du logement et de façon précoce comparativement aux gens qui n'en bénéficient pas, et que globalement, l'ensemble de la population se retrouve dans une situation quand même d'amélioration de leur qualité de vie. Alors après, on peut détailler les résultats sans fin pour savoir quels sont les domaines dans lesquels ils vont être le plus améliorés, etc. Une des choses probablement intéressantes, sans rentrer dans le détail, une des choses probablement intéressantes, c'est que indiscutablement, le programme, il améliore en fait l'accès à l'autonomie des individus. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon précoce. Et c'est quelque chose qui est extrêmement cohérente par rapport au programme. La même chose, on va retrouver des différences, des résultats qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre des populations schizophrènes et des populations atteintes de troubles bipolaires, en sachant qu'il y a moins d'individus. Troisième élément, c'est mais est-ce que ça améliore la symptomatologie des individus? De la même façon que ce qui a été trouvé préalablement, donc on va dire finalement c'est peut-être un peu négatif, on ne voit pas de grosses différences majeures à la fin. On ne voit pas de grosses différences majeures à la fin, mais on voit une amélioration plus précoce dans les gens qui sont logés, et puis surtout on voit une amélioration quand même de la symptomatologie au global. Ça, c'est une absolue évidence. On va retrouver des différentiels assez classiques dans les bénéfices entre les populations schizophrènes et bipolaires. Voilà. Troisième indicateur, puisque c'est des choses qui ont été demandées tout particulièrement par la DGS d'ailleurs, il serait très utile de savoir ce qu'il se passe sur les conduites addictives et le recours à la consommation d'alcool. Alors, ce qu'on va trouver, c'est des résultats qui sont contradictoires. Finalement, on va voir que effectivement, dans le bras logé, finalement, le recours à la consommation alcoolique, finalement, il est supérieur au bras non logé, ce qui est un résultat qui est contre-intuitif. Mais si vous avez vu le même film que moi, j'ai juste entendu quelqu'un qui disait qu'il était sous un pont et qu'il était agressé en permanence. Et quelqu'un qui est agressé en permanence, il se protège. Et pour se protéger, la première des choses, c'est qu'il boit moins que celui qui n'est pas protégé, celui qui est protégé. Et ce qui est assez cohérent, finalement, comme résultat, et ce qui n'est pas fondamentalement surprenant. Alors, à ce stade-là, finalement, si j'avais présenté des résultats au fur et à mesure, finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, quoi. Puis, il n'y a pas beaucoup de différence, mais on voit quand même une évolution dans le temps qui est importante. Et puis, effectivement, on va voir d'autres améliorations dans les dimensions des violences, dans les dimensions de l'amélioration sociale, etc. Mais on pourrait se dire finalement à quoi ça sert? Ça sert parce que initialement la vraie question c'est de dire mais en fait est-ce que de faire quelque chose d'intervenir, de créer une alternative, est-ce que finalement on va réduire du recours à du système de soins qui n'est pas du tout adapté aux individus et est-ce qu'on va impacter fondamentalement à ce niveau-là? Alors on peut en juger par différents indicateurs qui vont être le nombre d'hospitalisations, le nombre de jours où les gens vont être hospitalisés, le nombre de passages aux urgences, etc. Ils existent tous les résultats, donc je ne vais pas vous les faire tous. Celui qui est le plus intéressant, surtout si je le saute, c'est illisible hein, en fait. C'est bien la salle de la Roque, mais là c'est illisible. Là sur le petit écran où j'ai des vieux yeux en fait. Je confirme. Celui qui est le plus intéressant, dès que je le retrouve, si je ne l'ai pas supprimé, dans un. Tu le vois toi hein? Je l'ai supprimé, c'est ça que tu dis hein? Ah, j'ai une manœuvre malheureuse ce matin. Celui qui est fort intéressant, mais de toute façon, il est résumé là. Ce qui est intéressant, fondamentalement, c'est celui sur le. Enfin, ce que l'on va montrer très clairement. Je suis fatigué. Hein.
Non, c'est juste. Voilà.
J'y suis. Ce qu'on va montrer clairement, c'est que en pratique. Bon, premièrement, il va pas y avoir de différentiel qui sera très important sur est-ce que je vais aux urgences, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis passé à l'hôpital, est-ce que je suis pas passé. Par contre, ce qui va changer fondamentalement, c'est le nombre de jours que les gens vont passer à l'hôpital. Et on va avoir un effondrement du nombre de jours passés en hospitalisation chez les gens qui bénéficient du programme comparativement aux gens qui n'en bénéficient pas. Alors, premièrement, c'est parce que l'hospitalisation est une alternative au logement quand on cherche pas. Et ça renvoie à l'intervention de Sylvain Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire à l'inadaptation tout à fait de la réponse, qu'elle soit des fois du secteur social quand il ne s'interroge pas sur les questions sanitaires, ou du secteur sanitaire quand il ne s'interroge pas sur les questions qui sont sociales. Donc quelque chose qui est relativement important. Donc on pourrait dire, d'accord, vous avez diminué du nombre d'hospitalisations, mais est-ce que ça sert vraiment? Alors là, on comprend qu'il y a un noyau dur de gens qui sont hyper motivés, qui disent, mais alors, quand même, ça sert, etc. Mais au bout d'un moment, il y a juste une vraie question. Il y a un financeur qui dit, d'accord, vous avez amélioré parce que vous êtes occupé des gens, ça va un peu mieux, etc. Mais tout ça, ça coûte très cher, en fait. Et donc, on voit pas pourquoi on irait le faire, parce que c'est ça la vraie question, au bout d'un moment, que posent les gens. Et donc, la vraie question est la question, finalement, finalement, si on fait ça, est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que ça coûte moins cher ? Humainement, on comprend très bien de dire finalement, je donne un logement, je les accompagne, je comprends que j'améliore du rétablissement, ils vont moins à l'hôpital, leur vie est meilleure, etc., etc. Mais parallèlement, des décideurs pourraient dire, oui, non, mais à terme, on voit que les autres, finalement, ça va rejoindre un peu, etc. Puis est-ce que c'est vraiment important ? Et puis ça coûte cher, votre histoire, quand même, ça va coûter quand même très cher. Donc si c'est pour donner autant d'argent pour des résultats, est-ce que c'est rentable ? Alors je vais vous éviter la décomposition des coûts auxquels tient énormément l'économiste qui a travaillé avec nous. Vous allez me faire confiance. Et je vais arriver au résultat final. Et en plus, d'autant plus que Pascal Estécandi m'a dit qu'il fallait que je parle très vite. Donc je vais aller directement au résultat final en disant qu'en pratique, on a considéré tous les coûts en fait, qui était relatif finalement à ce qui se passait. C'est-à-dire, en pratique, il y a les coûts de recours au système de soins, il y a les coûts de recours au système judiciaire, il y a les dispositifs d'alternatives au logement qui peuvent exister pour les gens qui ne sont pas logés, il y a tout ce qui est de l'aide alimentaire. On a essayé de considérer, de prendre en compte l'ensemble des coûts dans un recueil de coûts et en faisant des estimations de ce qu'ils pouvaient représenter. Et après, on a reporté en fait ces coûts en les annualisant, en disant voilà combien ça coûte en fait par an, voilà, et pour des gens finalement qui seraient rentrés dans le programme et qui auraient suivi le programme à un horizon temporel idéal, une espèce de fidélité au modèle, en disant finalement quand les gens sont dans le programme et qu'ils vont au terme des 24 mois, que se passe-t-il en coûts annuels comparativement à des gens qui n'ont pas bénéficié du programme ? Et donc le résultat en fait qui est le plus intéressant, ça c'est l'ensemble de la décomposition des coûts, le résultat qui est le plus intéressant doit être ici, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas en face. Le résultat qui est le plus intéressant, c'est le suivant. Ce que l'on va voir, c'est que effectivement on a un bras, enfin les gens qui bénéficient du dispositif qui s'appelle un chez-soi, donc on comprend très bien que ils vont consommer des services médicaux à hauteur d'une certaine somme d'argent, qu'ils vont consommer des services judiciaires à hauteur d'une certaine somme d'argent, qu'ils vont consommer des services d'hébergement à hauteur d'une certaine somme d'argent, a priori pas beaucoup, puisque en pratique le programme se substitue à l'hébergement. Et donc on voit très nettement que rapidement il y a des disparités de coûts, notamment en termes de recours aux services médicaux. Et dans les recours aux services médicaux, l'essentiel de ces recours sont de l'hospitalisation et dans l'hospitalisation du recours en fait aux services de psychiatrie. L'essentiel des coûts fondamentalement est là. Et donc ce à quoi on arrive à la fin, on montre finalement que le coût total qui a été consommé ou qu'on en a investi, que l'on a consommé dans le brin chez soi, il est en simplifiant de 28 000 euros, parce que je ne suis pas tout à fait en face des chiffres, de 18 760 euros. Et que chez les gens qui sont dans le système de prise en charge habituel, cette dépense, elle représente 39 500 euros. Donc tout de suite, les gens disent oui, d'accord, c'est plus cher d'un côté que de l'autre, mais ça vous a quand même coûté de l'argent à côté. Vous avez mis des logements, vous les avez accompagnés dans le rétablissement, etc., etc. Le coût annuel du programme, il est de en pratique 14 000 euros, d'accord? Donc après, c'est assez simple, hein, il suffit de faire 18 000 plus 14 000 comparativement aux 38 000 de l'autre côté ou 39 000 de l'autre côté. Et rapidement, on comprend que en pratique, les coûts qui ont été investis dans le cadre du programme, non seulement ils sont couverts, mais ils sont au-delà de couverts, c'est-à-dire que le dispositif, il est bénéficiaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des coûts, voilà. Alors, en conclusion, puisque Pascal m'a demandé d'être rapide, donc là, je ne peux pas dire ce que l'on peut retenir quand même du projet de façon très formelle, très habituelle dans un programme de recherche, etc. La première des choses, c'est premièrement, quand même, ce qui est important, c'est que faire bénéficier des gens du programme, les gens restent dans le programme et qu'il y a une stabilité dans le logement qui est offert. Le rappeler n'est pas tout à fait inutile. Que les effets sur l'état de santé sont effectivement une réalité. Globalement, les états de santé s'améliorent, voilà, avec probablement des différences et des gains qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon les types de pathologies qui sont concernées, voilà. Qu'il y a une réduction qui est nette des recours à l'hospitalisation, et tout particulièrement hospitalisation en psychiatrie comme alternative finalement à un logement, voilà, et qui est quand même beaucoup moins sympathique qu'un logement, et qu'au final, les coûts du programme chez soi d'abord, ils sont largement compensés par les coûts qui sont évités. Donc, effectivement, c'est probablement l'argument qui a permis à la fin d'avoir une discussion. C'est peut-être pas l'argument le plus noble, mais c'est l'argument inévitablement qui a eu du sens pour l'assureur, inévitablement. Alors, il y a une deuxième conclusion plus personnelle, voilà. Enfin, c'est pas une conclusion plus personnelle. On peut dire que sur la base finalement de l'étude et de l'expérimentation qui a été menée, premièrement, c'est que c'est une des rares études de type interventionnel randomisé dans le champ médico-social menée en France et qui aboutit quand même à son extension dans un temps qui plus est qui est record. Enfin, ça a été rappelé tout à l'heure. Enfin, les premières sollicitations, moi la première sollicitation que j'ai historiquement, elle date de juin 2010. On est en 2017 dans une action qui est inscrite pour être pérennisée. Donc c'est plutôt positif, voilà. Et puis après il y a une deuxième conclusion, mais qui rejoint, que je craignais d'être provocatrice, mais finalement, au regard de ce que j'ai entendu de la part de Sylvain Mathieu, je suis pas sûr que ce soit si provocateur que ça. Je le regrette d'ailleurs. On est dans une phase d'extension, voilà. Cette phase d'extension qui est à mi-distance, effectivement, qui est une phase de pérennisation, il faut l'entendre comme ça, mais qui est aussi une phase de pérennisation dans un processus de surveillance de cette période de pérennisation. Que l'on aura probablement tout intérêt à pas oublier en fait ce que finalement a pu apporter préalablement le fait d'avoir volontairement recadré en fait le processus dans un processus qui soit mixte, dans lequel en fait il remonte de l'information historique à la fois de l'étude quantitative et de l'étude qualitative dans les processus finalement d'extension, d'essaimage, des problématiques d'effets pervers qui sont une réalité. C'est-à-dire que les bénéfices que l'on peut constater, on peut les reperdre d'un autre côté, et qu'il est difficile qu'il y aura certainement une importance et une nécessité à avoir une grande vigilance dans la surveillance de la dissémination. Je ne le dis pas à titre personnel, mais je le dis au titre, puisque finalement, au bout d'un moment, il y a besoin d'une espèce de caution de la recherche. Donc c'est bien, je fais de la caution de la recherche, je l'ai fait. Mais un chercheur, des fois, ça a une responsabilité. De temps en temps. Et la responsabilité, elle est de rappeler que, en fait, on n'est pas dans un processus de dissémination de quelque chose qui est tout à fait anodin. Un chercheur, il peut dire demain matin, finalement, dans un processus d'évaluation, telle molécule est meilleure que telle autre. Et puis finalement, s'il s'avère que dans la vraie vie, c'est pas vrai, il suffit juste de retirer la molécule, ça va pas changer fondamentalement les organisations. Là, les responsabilités, elles sont quand même d'un autre ordre. Vous changez en fait vous changez des organisations sur lesquelles il serait compliqué de revenir en arrière si elles s'avéraient à distance dysfonctionnelles. Donc ne pas imaginer en fait que le processus de pérennisation soit surveillé, accompagné, serait stratégiquement une erreur. Voilà, mais on dépasse probablement le cadre. Voilà, après pour conclure vraiment à titre plus personnel, voilà, effectivement, c'est une expérience voilà, comme tout chercheur, on peut rester confiné dans son coin ou être sensible à quelque chose, et donc à titre personnel, c'est une expérience extrêmement positive. Je remercie particulièrement en premier les équipes canadiennes qui nous ont donné beaucoup de matériel pour pouvoir travailler, pour pouvoir débuter le projet dans des temps record, tout particulièrement Eric Latimer qui est là. Voilà, je remercie les gens qui ont travaillé, parce que moi j'ai pas travaillé, enfin moi j'ai rien fait de façon. Donc je remercie l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, voilà, particulièrement Vincent Girard qui a initié le projet, Aurélie Tinland, Sandrine Loubière et Mohamed Boussekine. Je remercie aussi beaucoup ce qui n'apparaît pas, enfin si on le voit dans le film, les enquêteurs de terrain, leur travail a été extrêmement dur, voilà, c'est pas simple d'aller sur le terrain, d'inclure des gens dans une étude randomisée. Enfin, je pense que c'est pas d'une grande simplicité d'avoir eu aussi peu finalement de perdu de vue au fil du temps, ce qui suppose d'avoir été capable de créer du lien et d'avoir des qualités pour le faire. Voilà, et d'une façon plus générale, je remercie les patients qui ont